liberté, égalité, révolution et république, égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyennes et citoyens sans cesse pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. Parole des citoyens tout attaché au singulier, @fréquence7.net. Aujourd'hui, le titre de notre mission. Éducation, réintégration des soignants et abrogation de la réforme des retraites. Dans la première partie de notre émission, Marie-Claude nous fait un point sur la pénurie des professeurs remplaçants dans le second degré et Claude abordera la réforme de l'enseignement professionnel. Dans la deuxième partie, nous reviendrons sur la réintégration des soignants suspendus avec deux témoignages d'une aide à domicile et d'une ex-cadre santé de l'hôpital d'Aubenas. Propos recueillis après la projection du documentaire « Soignants suspendus ». Et pour la troisième partie, Marie revient sur la proposition pour l'abrogation de la loi « Réforme retraite » proposée par le groupe Liot. Nous finirons par les luttes passées et à venir. Donc pour cette première partie, nous laissons la parole à Marie.
Bonjour, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je vous le dis maintenant. Alors, les professeurs absents. Depuis la rentrée de septembre, les parents d'élèves doivent faire face à une pénurie de professeurs remplaçants. Résultat, près de 40 000 heures de cours n'ont pas été données. Emmanuel Macron, fin mars, avait annoncé vouloir remplacer, du jour au lendemain, les professeurs absents. Encore une fois, effet d'annonce. La réalité est bien différente. Pape Ndiaye avait précisé que ce serait l'absence et pas forcément la matière enseignée qui serait remplacée. Résultat, des élèves continuent à ne pas recevoir tous les enseignements prévus. Cela aura des répercussions terribles sur la scolarité des élèves. Des témoignages en masse d'élèves qui n'ont pas de scolarité normale. En exemple, certains n'ont pas de cours d'anglais, tels dans cette classe de 6e qui ont calculé plus de 50 heures de cours perdus. Dans une classe de 4e, les parents se plaignent que leurs enfants ont des cours à temps partiel. Dans cette autre classe de 4e, les élèves disent n'avoir eu qu'un cours de français sur l'année, car leur professeur est absent depuis octobre dernier. Un autre témoignage d'un contractuel qui était disponible depuis le mois de janvier, après avoir répondu à une petite annonce de Pôle emploi, on lui a proposé un poste depuis une semaine, alors que le professeur qu'il a dû remplacer était absent depuis 2 mois. Les élèves de 3e n'ont pas eu de cours pendant ce temps et il dit avoir un mal considérable à leur faire rattraper le retard. N'oublions pas qu'en ce moment, les orientations pour les élèves de 3e vont commencer. Il semblerait qu'en plus des problèmes de manque de personnel, il y ait également un problème de gestion du personnel disponible. La réalité du terrain est que 1500 postes ont été supprimés à la rentrée 2023 dans le cadre de la loi Finances 2023.
Merci Claude. Toi, tu vas nous parler sur la réforme de l'enseignement professionnel.
Oui, j'ai fait un texte assez court parce qu'on y reviendra certainement parce que Macron continue à faire de l'enfumage, mais derrière, il y a un piège. Le 4 mai, Emmanuel Macron fait de la réforme de l'enseignement professionnel grande cause nationale. 620 000 enfants par an passent par cette filière. Pour le chef de l'État, la formation professionnelle doit quitter l'éducation nationale pour intégrer le ministère du Travail. Désormais, le choix des métiers se feront au plus près des bassins d'emploi. Donc, cadeau royal aux entreprises. Au collège, à partir de la 5e, à 12 ans, découverte des métiers, une demi-journée par semaine. Ce projet laissera 15 000 profs sur le carreau. Les élèves seront rémunérés, pas de chiffrage pour le moment, mais qui paye? L'État. Encore un cadeau au patronat. À la fin de la terminale, si l'étudiant veut poursuivre dans le supérieur, 4 semaines de formation lui seront proposées. La rémunération est supprimée. Pour les élèves qui décident de poursuivre et rentrer dans le monde du travail, la rémunération est conservée. Cette réforme cible les enfants des milieux populaires, Ce n'est ni plus ni moins qu'un tri social.
Alors, moi je pense que ça va être difficile d'appliquer une réforme comme ça. Premièrement parce que si c'est les entreprises qui vont décider finalement, ce sont les entreprises qui vont décider des formations, des filières qu'il y aura dans les bacs pro en fait.
Oui, mais je pense que ce ne sera pas difficile à mettre en place. S'il prend le cursus de l'éducation nationale pour le mettre au ministère du Travail, mais c'est open bar pour les...
C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, il faut penser que les enfants qui vont être dans ces filières vont être ciblés dans leur bassin d'emploi.
Oui.
Et ils ne vont pas pouvoir changer de bassin d'emploi comme ça.
Oui.
Moi, je pense à Aubenas, avec le peu d'entreprises que nous avons, où on va mettre les enfants.
Ouais.
Le taux de chômage dans le bassin d'Aubenas, il est environ de 17%. Sans compter le travail saisonnier à côté. Donc il y a peu d'entreprises, je sais pas comment ça va se passer. Et l'enfant, l'élève qui va déménager en cours d'année, est-ce qu'il devra tout recommencer pour son cursus ? S'il va dans un bassin d'emploi qui n'offre pas les mêmes qualifications, les mêmes orientations, qu'est-ce qu'il va devenir ? Enfin, moi, c'est des questions que je me pose. Maintenant, je me trompe peut-être, mais... Voilà, ça me... Et en tout cas, au niveau de la rémunération, ce n'est pas une rémunération, c'est une gratification.
Absolument, oui.
Et en parce plus, qu'elle ne compte ni pour la retraite, ni pour la sécu.
On ne connaît même pas le montant.
Oui, en plus.
Et concernant donc les professeurs, qui vont rester sous le carreau
Alors, ça, j'ai lu un petit article là-dessus. En fait, dans la réforme qu'il veut faire, il va falloir que les professeurs changent de... En fait, c'est un vrai plan social. Parce que les professeurs vont arrêter d'enseigner à ce niveau-là. Et donc, ils vont devoir se reconvertir, alors on dit, en professeur des écoles. Bon, ouais, alors, je ne sais pas si vous voyez.
Maternelle, mais CP.
Voilà, les enfants des écoles, ça commence à 3 ans. Hein. Ça va de 3 à 10 ans. Donc, quand vous avez des élèves, des adolescents de 17 ans, que vous vous retrouvez avec des enfants de 3 ans, c'est peut-être pas tout à fait la même chose.
Alors, il nous reste un petit espoir, c'est que les professeurs bougent. Et les parents d'élèves aussi. Il me semble.
Oui, ça serait pas mal.
Donc, nous allons aborder la deuxième partie. Donc, nous laissons la parole à Claude concernant donc la réintégration des soignants suspendus.
Au cours de la dernière émission Parole de citoyennes et citoyens du 4 mai, Antonia avait évoqué le cas des soignants non vaccinés. Au même moment, à l'Assemblée nationale, lors de la niche parlementaire du groupe GRD, la minorité présidentielle est battue à plate couture sur le texte de la réintégration des soignants. Une délégation de 19 soignants invités assiste au débat. Sonia Andouchi, représentante d'un collectif, témoigne. C'était beau de voir les députés défendre nos souffrances, notre vécu, dénoncer l'aggravation d'un système de santé déjà délabré avant la crise sanitaire. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, dit-elle, je me suis enfin sentie comprise. Retour le 15 mai pour tout le monde, mais ce ne sera pas facile.
Alors oui, le journal officiel de dimanche stipule que les soignants sont réintégrés. Beaucoup d'entre eux ne souhaitent pas revenir. Je le comprends. C'est terrible ce que ces personnes ont subi en fait. Ils n'avaient plus aucun statut, pas de rémunération et ils ne pouvaient même pas changer de métier. On pourrait dire, et cela a été soulevé par des avocats, cette gestion de la crise était illicite au titre de la violation du secret médical, de la violation des droits internationaux et à titre principal de la violation de son droit au libre consentement éclairé. Cependant, ce n'est pas si simple. Des stratégies sur la défense des libertés fondamentales des soignants suspendus et des analyses du décret sont en cours. En exemple... J'ai vu une vidéo, un live de maître David Guyon qui avait reçu en direct maître Thomas Benagès, et ses deux avocats conseillent les soignants suspendus et ils les aident dans la réintégration ou leur non-réintégration parce qu'il y a plein de soignants qui ne veulent plus réintégrer.
C'est parti.
Ils expliquent maintenant que le décret est public. Maintenant que le décret est publié, l'employeur a 15 jours pour contacter les soignants et proposer des modalités. Quant à vous, les soignants suspendus, vous devez donner des informations nécessaires à votre employeur et surtout ne pas rester silencieux. Si vous restez sans donner de nouvelles à votre employeur, celui-ci pourra considérer que vous êtes en abandon de poste. Il pourra ainsi vous mettre en demeure et éventuellement vous rayer de la liste du personnel. Si vous ne voulez pas reprendre, Maître Bénagès conseille de ne surtout pas démissionner, mais plutôt de demander une rupture conventionnelle, ce qui permettra que vos salaires, ceux d'avant la période de suspension, soient pris en compte. Un abandon de poste équivaut à une démission. Je me souviens, moi, du témoignage d'une soignante à qui je parlais, avec qui je discutais, et qui ne veut pas réintégrer, et qui dit se souvenir des paroles de son directeur qui résonnent encore dans sa tête. Il lui a dit « Vous êtes fonctionnaire, vous représentez l'État, vous devez donc lui obéir. » Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait froid dans le dos, cette façon de voir les choses. Certains disent que leur DRH voudrait faire un nouveau contrat, mais alors que deviennent les avantages acquis par ces personnes, est-ce légal ? D'autres ne reçoivent qu'un mail qui leur confirme qu'ils doivent prendre contact avec leur supérieur. Il faut savoir que la loi sur la vaccination contre le Covid est seulement suspendue. Ça peut recommencer.
Et donc, pour compléter justement ce que tu viens de nous écrire, Marie, donc... nous avons recueilli deux témoignages, une aide à domicile et une ex-cadre santé de l'hôpital d'Aubenas.
En fait, j'ai été déclarée, comme toutes mes collègues, en fait, je suis un peu là pour représenter toutes mes collègues aussi. Je suis aide à domicile et en fait, les aides à domicile, à aucun moment on n'a été cité. Donc c'est un peu difficile parce qu'on ne fait pas partie d'une structure. On n'a pas de corporation, donc c'est encore plus compliqué. Et en fait, on est à domicile, donc on est des électrons libres voués à nous-mêmes. Et en fait, on n'a personne à qui se référer. Donc quand ça nous est tombé dessus, on a été donc déclarés soignants, parce qu'avant, on n'était pas soignants, mais grâce, on va dire, à cette loi, on a été déclarés soignants. Et donc, on s'est retrouvés toutes seules dans notre coin, chacune, à ne pas savoir ce que faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, certaines se sont tournées vers moi parce que j'ai un peu une réputation de grande gueule. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est retrouvées donc pour toutes sans salaire du jour au lendemain. Donc, je vous pose la question. Imaginez-vous que demain, vous n'ayez plus aucune rentrée d'argent. L'effet que ça fait, ça fait cet effet, c'est-à-dire qu'on se retrouve un peu avec le vide devant nous. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? En fait, on s'est mis en chèque emploi service universel. On s'est constitué en réseau. Et en fait, on fonctionne comme une entreprise, sauf qu'en fait, on est toutes responsables les unes de nous-mêmes. Chacune, on est souveraine en fait de nous-mêmes. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on s'engage, quand on est dans ce réseau, à remplacer les collègues dans la mesure de nos capacités et nos possibilités, et on joue aussi sur le local, c'est-à-dire que ce qui nous permet en fait de garder des interventions et de se remplacer, et en fait ça rassure même les gens. Et en fait ce système-là nous a permis finalement de travailler moins et de gagner plus. Donc quelque part, ça nous a permis, je dirais, cette crise Covid et tout ce qui se passe. On a été obligé de se retourner vers les autres, On a été obligé d'aller chercher la voisine, d'aller chercher le voisin, de discuter, chose qu'on avait perdu l'habitude de faire. Et on a été obligé en fait de créer, de se tourner vers la création et de plus compter en fait sur ceux qui nous gouvernent. Finalement, on a décidé de fonctionner sans eux. On les écoute plus et on fonctionne comme on peut, système D. Et en fait, on fonctionne très très bien comme ça.
Par rapport à la réintégration des soignants, je pense qu'on est dans une gouvernance qui va mal, la peur a changé de camp, et cette gouvernance est toujours dans la com, a toujours été dans la com. Alors là, on fait le gentil, et on réintègre des gens à qui on a tiré une balle dans le dos. Alors moi j'en parle en tant qu'ex-cadre de santé. Tout ce qui a été raconté là, tout ce qui a suivi sur l'hôpital qui était devenu entreprise avec la T2A, il fallait opérer beaucoup, il fallait opérer n'importe comment. Tout ça, c'est vrai, je confirme. Et ce qui va se passer, c'est que les personnes qui ont refusé cette injection létale à plus ou moins long terme pour certains, ces personnes qui ont refusé cette injection, qui ont eu ce courage, vont se retrouver avec d'autres personnes qui ont dit « Allez-y, injectez-moi », qui pleuraient le jour où on les a injectés. Et on va se retrouver, ils vont se retrouver ensemble. Je ne sais pas si vous imaginez la pétaudière. Et l'autre là-haut, il en rigole à l'avance, il n'en a rien à foutre, ni des unes, ni des autres. Et il va pouvoir dire, pour celles qui n'acceptent pas cet état de choses, vous voyez, elles ne veulent plus de leur boulot. Vous voyez, on leur dit « revenez », on les invite, on est gentils, nous.
Merci, donc nous passons à la troisième partie.
Oui, est-ce que je peux juste faire
une remarque, pardon.
Il y a juste une... Je comprends que cette dame soit très en colère et j'ai envie de lui dire, ça aurait été bien aussi de vous apercevoir depuis 10-20 ans que ça commençait à débloquer dans l'hôpital. C'est l'injection létale qui me gêne.
Oui, moi, me perturbe un peu là.
J'ai été obligée de me faire vacciner une seule fois parce qu'il fallait que je me fasse opérer, donc sinon je n'entrais pas à l'hôpital. Mais j'ai pas du tout pensé qu'on m'injectait la mort. Faut contrebalancer un peu, sinon oui. on va nous taxer de complotisme. Et j'ai pas envie. Voilà.
Très bien, Claude, merci. Donc on va aborder la troisième et dernière partie. Donc cette partie est consacrée à la proposition pour l'abrogation de la loi réforme en retraite proposée par le groupe Liot. Donc Marie, tu nous.
Oui, on parle de drapeau. On parle de portrait Macron dans chaque mairie. Serait-ce pour détourner l'attention? Est-ce que vraiment c'est le sujet principal? Moi, j'entends la réforme retraite. Et en fait, l'exécutif commence à s'inquiéter sérieusement. La proposition pour l'abrogation de la loi réforme des retraites déposée par le groupe Liot sera à l'Assemblée le 8 juin. Pour qu'une proposition de loi soit votée, il suffit que les partisans de cette proposition recueillent une voix de plus que les opposants, quel que soit le nombre de participants. Exemple 400 votants, il faudra 201 voix. Dans le camp des macronistes, on envisageait déjà de déclarer irrecevable la proposition de loi, car d'après l'article 40 de la Constitution, les propositions et amendements formulés ne doivent pas créer de diminution des ressources publiques ou aggraver une charge publique. C'est-à-dire que si l'on abroge le report à 64 ans, il faut être capable, dans un même temps, de rétablir l'équilibre financier des retraites. C'est pour cela que le groupe Liot a précisé qu'il y aurait ensuite une conférence sociale, ce qui devrait en principe fermer toute possibilité d'irrecevabilité. Le 8 juin, le gouvernement va se retrouver dans une situation impossible. Soit il laisse la discussion aller à son terme et donc au vote, et si la proposition de loi est rejetée, ce serait une victoire pour Macron. Si elle est adoptée, ce serait un succès symbolique pour les opposants et un encouragement pour la poursuite des contestations. Si le gouvernement s'arrange pour ralentir les discussions en faisant obstruction, afin d'empêcher le vote, cela apporterait aussi un certain succès à la contestation, car ce serait un déni de démocratie. La niche parlementaire ne dure que 24 heures. À minuit, ce sera fini. Dans tous les cas, les opposants à cette réforme ne sont pas prêts de lâcher. Vive les casserolades!
Merci Marie. Donc nous allons passer aux luttes passées à venir, donc avec un triste souvenir du 8 mai 1945.
Oui, ce qui m'a frappé dans le 8 mai, ce qui s'est passé à Paris, la présence de néo-nazis. C'est vraiment des néo-nazis qu'on ne dise pas ultra-droite, ce sont vraiment des néo-nazis. Et pour moi qui ai 75 ans, c'est un souvenir très, voilà, très présent. Et donc Darmanin et le préfet de Paris n'ont rien fait, n'ont pas fait en sorte que cette manif soit supprimée. Et ça m'a, je me suis souvenue d'un événement qui était dramatique. Le 8 mai 1945, dans le département de Constantine, en Algérie, un défilé est organisé pour fêter la victoire sur l'Allemagne nazie. La manifestation est autorisée par les autorités occupantes françaises, à condition que seuls les drapeaux français soient agités. À Sétif, un policier tire sur Bouzid Sahal, un scout de 26 ans, qui tenait un drapeau de l'Algérie, et le tue. Ce qui déclenche des émeutes avant que l'armée n'intervienne. Le nombre des victimes algériennes varie selon les sources entre 1100 et 45 000. Les historiens parleront de 20 000, 30 000, résultat funèbre d'un ordre colonial. Silence radio sur toutes les chaînes d'infos le 8 mai 2023. On a vu un président seul descendre les Champs-Élysées, vides, et saluant les devantures des boutiques fermées, tristes et pathétiques.
Oui, moi, je sais pas vous, mais j'ai vu les vidéos, et j'ai une question qui me taraude là, c'est, on interdit de se cacher, le voile, tout ça, hein, ouais. On interdit toute forme de où il faut pas se masquer, ou ouais, voilà. Et d'un autre côté, on voit sur les Champs-Élysées, enfin, sur ces personnages-là d'un néo-nazi, avec un monsieur en tête, cagoulé, où on ne voyait rien du tout de lui.
Cuir noir complet sur le visage.
Ça, moi, c'est effrayant, ce truc-là. Enfin, je ne sais pas.
Mais je pense que la Macronie laisse la place un peu trop, un boulevard aux fachos. Ça devient dangereux, on joue un jeu dangereux, on verra. Enfin bon, on verra, je serai peut-être morte.
Donc, concernant les luttes à venir, Claude, tu as des annonces à faire.
Oui, nous avons le 23 mai, il y a une action en Ardèche, en Basse-Ardèche. C'est pour le travail social en grève et dans la rue. Donc le mardi 23 mai, action coup de poing, tenez-vous informés. Donc pour savoir, on ne peut pas tout dire, téléphonez à l'ULCGT ou des militants qui sont au courant des... Et le 6 juin, pas jeudi, parce que sur le tract, il y a eu une coquille, le mardi 6 juin, grève à manifestation, rendez-vous à 14h à Ponson, à Aubenas, et il n'est toujours pas question d'accepter ce projet de réforme des retraites. Il ne nous aura pas le poudré, pas du tout.
Il n'y aura peut-être pas que des casserolades.
S'il n'y a pas d'autres informations, donc prochaine émission dans 15 jours, nous vous rappelons le mail pour vos réactions, infos, suggestions, paroles des citoyens tout attachés singulier, @fréquence7.net. Merci les filles.
Et moi je voulais remercier Sylvain, et Fréquence 7
de nous accueillir.
Merci Sylvain. Et au revoir à tous.
Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.